peut-être bien qu'il est trop fort un peu. C'est-tu mieux un peu? C'est moins fort ou c'est fort encore? C'est ça, on dirait que soit qu'on n'entend rien ou... Oui, est-ce que ça va? On entend un peu là, je pense que c'est bien. Vous m'entendez? C'est pas trop fort? C'est du lait, un rendez-vous à Richard pour ses oreilles. Aussi. Bien, frères et sœurs, bienvenue. C'est le fun de vous voir, toujours plaisant. C'est ça, j'aimerais pour débuter comme introduction, si vous voulez tourner dans le livre des Proverbes. Je vais vous lire deux proverbes, deux versets en fait. Donc, Proverbe 17. Donc, si vous êtes là, Proverbe 17, verset 1, ça dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Si vous allez juste un petit peu en arrière, Proverbe 15, verset 17, il dit, « Vaut mieux de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Linda, matin, elle m'a servi un pain sec, là, parce qu'elle dit, « C'est mieux que tu manges un pain sec, qu'on soit en paix. C'est mieux pour le couple, c'est ça? » Non, elle ne m'a pas servi un pain sec, là. Mais c'est quand même spécial, hein? Quand tu lis ça, là, tu te rends compte que la personne a dit, c'est mieux de ne pas avoir grand-chose à manger, mais d'être en paix, d'être dans une maison où règne l'amour. Hein, on voit que l'amour et la paix, ça va ensemble, puis c'est comprenable aussi. Si j'ai de l'amour, normalement, bien, je devrais rechercher la paix. Ça fait que c'est fort comme illustration, là, c'est sûr que... C'est pas qu'il encourage les gens à ne pas manger ou tout ça, ce n'est pas l'idée, mais peut-être que notre état à choisir les deux, lequel est le meilleur. On comprend que pas manger, ce n'est pas bon non plus, là, mais je pense qu'il veut exagérer quelque chose pour mettre l'emphase sur l'autre aussi. C'est mieux de se retrouver dans cet état-là, mais dire au moins j'ai la paix. Puis on comprend que... Quand il y a des querelles, puis toutes sortes de problèmes aussi, on comprend aussi la portée de ça, ce que ça peut faire dans la vie des gens. C'est pas juste physique, c'est interne. C'est que les gens vont se retrouver avec des problèmes, des fois sérieux, qui vont nécessiter des soins particuliers, de la médication peut-être aussi. Tandis que, bon, oui, si on mange pas bien aussi, on peut avoir d'autres problèmes physiques, mais si on se remet à mieux manger tout ça, on récupère mieux des fois qu'avoir un problème... Où ce que là, on est affecté dans notre être intérieur, dans notre cœur, dans nos émotions. Et puis, c'est les proverbes ici, comme ça, là, vraiment nous ramènent à ce qu'on veut voir aujourd'hui. Ce que j'aimerais prier. Hein, Seigneur, on te prie, on te remercie pour cette belle journée que tu places devant nous. Merci d'être ensemble, Seigneur. Tu nous invites à la paix, comme on voit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui encore, de vivre en paix, comment tendre vers ça. Et encore, Seigneur, bien, on te prie de nous diriger. Merci de ta présence, Seigneur, dans chacune de nos vies. Et Seigneur, on se tourne vers toi encore avec un cœur rempli de joie, de reconnaissance. Bénis notre culte, Seigneur. On te prie pour les frères et sœurs qui ne peuvent pas être là ce matin. On a une pensée pour eux, Seigneur. Et merci de prendre soin là où ils sont. Alors, Seigneur, encore merci pour tout. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, frères et sœurs, bien, vivez en paix. Puis là, bien, ma machine ne marche pas. Qu'est-ce que tu as fait, Robert? Là? Ah, OK. Non, je voulais juste te faire marcher. Donc. C'est pas vrai. En fait, c'est ça. Vivez en paix. Et puis, ce verset-là dans Romains aussi, bien qui est dans le Nouveau Testament, nous dit, bien, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, voilà un beau mandat auquel nous sommes appelés, d'être en paix avec tous les hommes. Et c'est le thème un peu de notre message, non seulement de ce matin, mais de cet automne, que notre frère Brian a débuté la semaine dernière. Donc, comment vivre en paix avec tous les hommes? Et il avait mentionné, bien, tout ça, c'est tiré d'un livre intitulé « L'artisan de paix » de Ken Sandy. Donc, c'est un guide biblique pour la gestion des conflits personnels. La gestion des conflits personnels. Hein? Personne n'aime ça, les conflits. Je ne sais pas si vous aimez ça. Moi, je n'aime pas tellement ça. Et malheureusement, bien, on en vit. Peut-être que vous êtes en train d'en vivre actuellement. On espère que non. Mais on sait que ça va arriver. Des fois, bien, on vit des conflits parce que les gens amènent des conflits, on les vit avec eux. Des fois, on peut être responsable nous-mêmes de conflits. Ça fait que c'est pas toujours la faute des autres. Des fois, on est impliqué là-dedans. Et puis, comme on va voir éventuellement aussi, bien, c'est rare que quand il y a un conflit, c'est juste une personne qui est responsable. Mais ça sera à venir, ça sera à discuter. Ça fait qu'on a besoin là, de se rappeler ces choses-là. Et puis, bon, les conflits, comme on dit, on en a connu dernièrement. Notre frère nous parlait la semaine dernière, hein, juste avec la COVID. Qu'est-ce que ça l'a amené, par exemple, juste dans les églises? Et c'est sûr, c'est pas juste dans les églises, là. La COVID, là, on parle avec des gens, puis il y a des gens qui, c'est pas des croyants, mais ils ont leur idée là-dessus, ils ont leur idée sur le vaccin, ils ont leur idée sur les mesures sanitaires qui ont été prises, tout ça. Alors, je veux dire, ça a amené, là, des difficultés, des problématiques. Et puis, on a vu aussi que, bien, à travers ça, malheureusement, même chez certains croyants, bien, ça a amené des déchirements. Ça a amené des querelles. Même il y a des gens qui vivaient des amitiés sincères avec des personnes, bien, cette amitié-là, en tout cas, c'est pas mal refroidi, malheureusement. Des gens ont quitté l'Église aussi à cause de ça. Puis même à travers ça, bien, on s'est traité de nom, on a porté des jugements, puis bon, quelque part dans ça, des fois, bien, on a défini c'était quoi un vrai croyant. Hein? Un vrai croyant, c'était pas quelqu'un qui s'était tourné vers le Seigneur, c'était quelqu'un qui ne croyait pas dans les mesures sanitaires ou qui ne prenait pas le vaccin. Ça, c'était un vrai croyant, ça, c'était quelqu'un qui avait la foi. Et puis là, là-dessus, je ne porte pas un jugement, là. C'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on a entendu. Ça fait que, mais bon, il faut quand même penser que dans ça, j'aime toujours penser que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir. Hein? Je veux dire, on est appelé à réfléchir, on est appelé à analyser les choses. Et puis, je pense que dans ça, bien, on a le droit à des opinions. On n'est pas, en train de dire ce matin qu'on n'a pas le droit à des opinions. Je pense que c'est plutôt dans la façon de le dire, pour être en paix, puis exprimer de l'amour réciproque les uns envers les autres. Ça fait que je pense que c'est ça à quoi le Seigneur nous appelle. Et puis, malheureusement, bien, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont manqué cet aspect-là. Donc, notre priorité, bien, le Seigneur aujourd'hui nous invite à être en paix, si possible, avec tous les hommes. Donc, on pourrait juste regarder brièvement, bien, un conflit, c'est quoi? On dit en général, bien, on dit qu'un conflit, bien sûr, c'est un affrontement. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait deux personnes au moins qui s'opposent, donc qui vont s'opposer. Soit au niveau de la volonté ou une orientation divergente entre deux ou plusieurs personnes. Puis, bien sûr, c'est plutôt rare que ce n'est pas émotionnel. C'est dur de rester calme. C'est dur d'écouter quelqu'un qui amène quelque chose peut-être que nous, on ne pense pas comme ça. Puis c'est notre défi. Hein? On a de la difficulté à écouter les gens. On a de la difficulté à essayer de les comprendre. On est plutôt porté, des fois, bien, à amener notre point, à contredire la personne. Donc, ici, on voit que c'est accompagné souvent d'émotions fortes. Hein? Souvent, ça va être de l'agressivité. Ça peut amener du rejet. Ça peut amener de l'évitement de l'autre. Ce qui est important quand même de comprendre, à noter qu'un simple désaccord n'engendre pas forcément un conflit. On peut ne pas être en accord, mais on n'est pas obligé d'aller en conflit avec ça. Malheureusement, on va en conflit. Donc, on réalise que les conflits sont universels, donc impossible quelque part de les éviter. On voudrait bien. S'ils ne sont pas résolus rapidement, ils ont tendance à pourrir et à s'aggraver davantage. Ne rien faire et attendre que le conflit se dissipe n'est guère la solution. Et vous vous souvenez, notre frère nous avait parlé de quelle manière on réagit quand on fait face à un conflit. Vous en souvenez? Donc, il y avait un côté, il y avait un mode échappatoire. Ou il y a plutôt confrontation, on prend le taureau par les cornes, puis on dit qu'un. Donc, ça va être un mode attaque. Ça fait que ni un ni l'autre n'est bon. Hein? C'est vrai que des fois, peut-être de ne pas s'emporter, de dire « je vais attendre un petit peu », je pense que ça a sa place. C'est pas de l'évitement, ça, c'est pas de l'échappatoire. C'est juste de dire « c'est pas le temps d'aller plus loin avec ça ». Je vais laisser la personne se calmer, ou moi-même, je vais me calmer, je vais laisser descendre ça. Ça fait que quand je vais parler à la personne, je vais être mieux disposé. Ça fait que ça, c'est la bonne façon de faire. Ce n'est pas un mode échappatoire. Mais il y en a qu'eux autres ne vont ne rien dire. Puis ils ne disent plus rien après non plus. Puis tantôt, à la fin, on va regarder un petit peu les conflits aussi. Hein? Des fois, il faut regarder ça plus large aussi. Là. La portée d'un conflit dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire aussi dans la vie de l'Église, les conflits? On en a parlé un petit peu tantôt, là, mais c'est bon d'aller plus loin. Puis surtout, comme ma femme disait ce matin, c'est vrai que dans ça, des fois, bien, on pourrait dire, ouais, on est fait comme ça, là, des fois, quand on parle de certaines choses, là, ils nous viennent des personnes dans nos pensées. Ce n'est pas à ces personnes-là qu'il faut penser. C'est à nous. Hein, mettons, on va dire, oh, cette personne-là, elle va amener des conflits, par exemple. Souvent, on est comme ça. On pense plus aux autres. On voit chez les autres des problématiques, mais on ne se regarde pas nous. Ce qu'on veut faire à travers toute cette session-là, dans le fond, c'est de se tourner pour soi-même. C'est un travail personnel. On ne peut pas changer l'autre personne. On n'a pas la puissance. Mais on peut s'aider, ça c'est sûr. Mais le Seigneur veut ce matin qu'on se tourne puis qu'on considère ces choses-là pour nous-mêmes. Puis on peut prier les uns pour les autres à travers tout ça. Donc, les conflits sont universels. Donc, comme premier point, bien ce matin, bien, on a parlé aussi là, la semaine passée, la vie en général, incluant la vie d'Église, est propice aux querelles, conflits, aux divisions. Ce matin, je vous demande, pour qui allez-vous voter demain? Bande de peureux, hein? Oui, on veut partir, ben oui. Pourquoi? Parce que souvent, on nous dit que soit la politique ou la religion, c'est quoi ça fait? C'est la chicane. Donc, il ne faut pas parler de ça. Hein? Il y a des familles, là, quand ils se rencontrent, il faut qu'ils ne parlent pas de politique ou de religion. Maurice, toi, tu fais ça? Tu as décidé ça chez vous, ça? On ne parle pas de politique, religion? OK, bon. Ça fait que... Oui. OK.
Il n'y en a pas un qui vote pour la même partie.
Non, c'est ça.
Bon.
OK. Oui. Ben oui, mais c'est bon. Il faut que ça soit ça. Oui,
moi, je voudrais bien 2 000 $ pour les aînés. J'aime bien ça, moi.
Donc, on a une petite idée pour qui tu vas voter. Hein? C'est ça, si je vous demande, étiez-vous pour les Nordiques ou bien le Canadien? Let's go, Canadien. Hein? Mais après ça, je me suis même aimé Nordique. Non, mais c'est vrai, hein? L'autre fois, je vous l'avais déjà partagé, je lisais dans un journal là, l'année passée les opinions de lecteurs, puis c'était, je crois que c'était le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis là, lui, il s'en va dire que si on va avoir la paix, justement, c'est ça, c'est la laïcité. Puis j'ai dit, pauvre monsieur, je suis sûr qu'il chicane là, pour d'autres raisons que ça. Là, hein? On chicane pour n'importe quoi. C'est pas vrai, ça, que c'est la laïcité qui va amener la paix. Je veux dire, c'est tout simplement, c'est sûr, là, je ne sais pas qu'est-ce que cet homme-là a vécu par rapport à sa vie personnelle ou peut-être face à, on va dire, à la religion. Là. Mais souvent, les gens, ils ont vécu quelque chose de négatif qui font que là, aujourd'hui, ils ont pris une position face à ça, puis ils s'opposent à ça, ils sont fâchés, puis c'est sûr, souvent, ils ne connaissent pas leur cœur. Je me souviens, une année, je m'en allais travailler, puis il y avait... j'écoutais Radio-Canada, puis en tout cas, il y avait des personnalités connues au Québec qui avaient écrit un livre « Pourquoi je suis athée? » Puis là, ben, en tout cas, je ne sais pas comment ça se fait, là, qui était là aussi, mais entre autres, il y avait invité, à ce moment-là, je me souviens, il y avait un prêtre là, de l'Église catholique, là, on le voyait souvent à ce moment-là, quand on dirait qu'il avait besoin de quelqu'un, c'est lui qui allait voir. C'est que lui, il était là, puis il avait posé une question à personne, il dit « J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous avez vécu? » Tu sais? Puis je pense que c'était une bonne question. Tu sais, je veux dire, si on peut dire qu'on est athée, mais pourquoi, là? Il y a une raison. C'est pas juste parce que la science le dit ou... Souvent, c'est des expériences personnelles, de déception. Puis là, on peut mettre toutes sortes de choses. Peut-être que certains ont vécu des choses aussi. Hein? On parle tellement d'abus de cet ainsi ou... Ça fait qu'il y a quelque chose, des fois, qui va là. Puis je trouvais qu'il avait posé une bonne question, mais personne n'a répondu à sa question. Donc, les conflits, en général, sont universels. Cependant, c'est sûr, bon, les Écritures parlent de conflits, parlent de problématiques. Ça fait que j'aimerais ça qu'on regarde dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vais regarder, voir, je ne pense pas que je vous l'ai mis, là, mais non, c'est le prochain, c'est bon. Donc, si vous tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. On va voir l'apôtre Paul hein, qui parle de conflits. Puis, il n'y a pas juste dans cet endroit-là, mais entre autres, c'est l'apôtre Paul, il dit au verset 10, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé? Christ a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? » Donc, on voit Paul ici qui dit, bien, il y a des divisions parmi vous. Et puis, le mot division, bien, c'est sûr, si on le regarde un peu, hein, on connaît ça, c'est quoi un schisme? Hein, on entend ça des fois, là. Bien, ça veut dire division, ça veut dire une déchirure. Dans un sens physique, bien, par exemple, on a un vêtement qui est déchiré. Ça a ce sens-là. Cependant, ici, il y a plus, le mot est plus, pas non, un sens physique, mais plus métaphorique. On dit ici, dans le fond, que cette division-là, dans le fond, c'est tout simplement une différence d'opinion qui amène cette problématique-là, qui sépare les gens, non seulement physiquement, mais comme j'ai dit tantôt, ça serait juste physique, bon, parfait. Non, c'est notre être intérieur. On est blessé ou on est touché, on est affecté, on n'est pas compris dans ça, on n'est pas écouté peut-être. Puis à travers ça, bien, on va parler de ça aussi, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe quand on vit des divisions, quand on vit des conflits? On est affecté intérieurement. Il faut travailler là avec l'aide de Dieu pour avoir la victoire. Donc, ce n'est pas juste physique, c'est émotionnel. Et les conflits amènent de la souffrance interne dans notre cœur, dans notre âme. On dit aussi que dans le fond, c'est ça, ça va conduire à un blocage relationnel. Parce que c'est ça qui arrive. Quand les gens se disputent ou, bien, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils ne se parlent plus. Ou on fait semblant que rien, mais on ne se parle pas pareil. Donc, ça nous affecte profondément. Comme j'ai dit tantôt, dans les proverbes, on s'aperçoit là, que ce manque de paix-là qu'on n'a pas, ou ce manque d'amour qu'on n'a pas, bien, ça conduit là, à une détérioration, puis ça fait souffrir intérieurement. Puis éventuellement, bien, ça pourrait nous emmener, là, hein, il y a des gens qui vont se suicider pour ça. Ils sont trop affectés intérieurement par le problème. C'est quand même intéressant ici, Paul il dit « je vous exhorte hein, ». Quand on voit Paul aussi, là, par exemple, juste, vous allez vous en souvenir, dans Philémon, Paul, il s'adresse à Philémon, puis au verset 8 et 9, il leur dit ceci, puis c'est intéressant, il dit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. » Paul aux Corinthiens, c'est la même affaire. Il aurait pu arriver, là, puis se servir de son autorité pour arriver, là, puis imposer sa loi, puis dire « Regardez, non, il dit, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Au nom de l'amour. » On pourrait dire, frères et sœurs, que quand on est sur la loi, vraiment, bien, la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exige. Paul, ici, il n'exige pas. Il exhorte. Puis ça, quand on exhorte, il faut, ça prend de l'amour et de la grâce. Et Paul ici, c'est ça qu'il fait par amour, par grâce, il dit « je vous exhorte ». Il expose le problème. Puis il leur dit « comment vous devriez vous comporter dans tout ça ». Puis c'est intéressant aussi quand on regarde toute cette... mettons, ce livre-là de Corinthiens, hein, on voit que, vous le connaissez, là, mais je veux dire, il y a plein de problématiques que Paul adresse dans les chapitres, différentes problématiques. Puis c'est intéressant de voir qu'il commence avec quoi, quel problème qu'il commence, hein, les divisions. Puis c'est quoi que les gens ont besoin, c'est cette unité-là, hein, il parle d'unité ici, là. Il dit, mais à être parfaitement unis. Puis Paul, il dit, bien, il prend le nom de Jésus-Christ, puis si on regarde, là, il est déjà rendu, ça fait 10 fois, il est rendu au verset 10, ça fait 10 fois qu'il nomme le Seigneur Jésus-Christ dans les versets d'avant. Il est rendu à la 10e fois. Donc, Paul, ici, bien, il adresse un problème. Puis, pour lui, le problème le plus important de ce qu'il savait, possiblement, c'était l'unité. C'est ça qui est important. Quand tu n'as plus d'unité, le reste, quand même, tu adresserais... il y avait des problèmes sexuels, il y avait des problèmes avec les dons, il y avait des problèmes, ainsi de suite. Puis, je veux dire, pourquoi adresser ça s'il n'y a pas d'unité? C'est quand on est unis, le reste, on peut travailler là-dessus. C'est intéressant de voir qu'il commence avec l'unité. Il y avait des problèmes, c'est ça qu'il y a tout de suite, il commence avec ça. Comment c'est important. Comment les problématiques de dispute puis de tout ça, bien, ça devrait être quelque chose qu'on devrait considérer fortement. Parce que si on laisse aller ça, bien, on comprend qu'il va y avoir des problèmes. Donc, frères et sœurs, bien, on comprend que les problèmes, les conflits, bien, ça existe. On n'est pas exempt de ça. Donc, on va regarder un peu les trois dimensions de la paix. Notre frère nous en a parlé la semaine passée aussi à travers ça. On va y revenir un peu rapidement. Juste voir un petit peu ici, là. Parfait. Vous savez, les trois dimensions de la paix, il faut se rappeler aussi que Dieu, dans ce qui est, c'est un Dieu de paix. Souvent, on est plus porté à penser, ah, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, puis c'est vrai. On dirait le Dieu de paix, des fois, on le voit moins. On y pense moins. Et c'est un de ses attributs, il est le Dieu de paix. Jésus aussi, bien, on voit dans l'Ancien Testament, bien, il est appelé comment? Le prince de la paix. C'est important. Le prince de la paix. Et cette paix-là, bien, c'est sûr, on pourrait dire que, en tant qu'artisan de paix, bien, on sait que comment il a créé cette paix, bien, il a donné sa vie en rançon. Il s'est sacrifié pour que, justement, on puisse être en paix avec Dieu lui-même. Donc, il y a trois dimensions à la paix que Dieu nous accorde en Christ. Bien, premièrement, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, ça dit, bien, en se sacrifiant à la croix pour nous, Jésus a rendu possible pour nous l'accès à la paix avec Dieu. Donc, la paix avec Dieu, bien, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce au fait qu'il a donné sa vie pour nous. L'apôtre Paul écrit, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Colossiens 1, versets 19 à 20. Dans Romains 5, 1 à 2, ça dit, « Étant donc justifiés par la foi, hein, nous sommes déclarés justes, à cause de notre foi en Jésus-Christ, bien, qu'est-ce que cela donne à celui qui fait ça? Bien, il a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc, la paix avec Dieu, qui est donnée par celui qui est appelé le prince de la paix, Jésus-Christ. Il y a la paix avec les autres. Donc, la paix avec les hommes. Et puis, notre frère, la semaine passée, bien, nous a parlé aussi de ça, si vous vous souvenez bien, dans Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 18, où il dit, bien, il parle aux païens qui étaient loin de Dieu, puis il parle aux juifs qui étaient proches de Dieu, à cause qu'ils avaient été, ils étaient le peuple choisi de Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis, ils avaient la loi, tout ça. Donc, il y avait quelque chose qui était là. Donc, il y avait une proximité avec Dieu. Mais en même temps, bien, il leur dit que ceux qui étaient loin, bien, ils ont été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Donc, grâce à Jésus-Christ, bien, nous avons été rapprochés. Donc, notre frère nous avait justement parlé là, des Juifs, comment c'était difficile, les relations qu'ils avaient avec les païens, puis que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, bien, a unifié ce qui était l'animosité qu'il y avait là, avait tout été enlevé grâce à la mort de Jésus-Christ. Donc, par le même fait, bien, tout ça nous amène aussi à dire, bien, on est capable de vivre en paix avec les autres. Mais encore là, on a besoin grandement de l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur, pour vivre en paix avec les autres. Et on pourrait dire que ce genre de paix aussi est la conséquence directe et rendue possible par l'obéissance au second des plus grands commandements qui nous dit, bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vivre en paix avec les autres, c'est aimer notre prochain, entre autres. Quand on est en paix avec les autres, on démontre l'amour envers cette personne-là. Et on accomplit ce commandement que Dieu nous donne. Bien sûr, on a la paix avec Dieu, on a la paix avec les autres, on a la paix avec soi-même aussi. Puis on comprend qu'aujourd'hui, bien, les gens, souvent, ce qu'ils veulent, c'est pas la paix avec Dieu, c'est pas avec la paix avec les autres, c'est la paix avec eux-mêmes. Ce qui compte, c'est ça. Si je suis en paix avec moi-même, le reste, c'est pas important. Dieu, c'est pas ça à quoi qu'il nous invite. Et on comprend que Juste être en paix avec soi-même, bien, ce n'est pas suffisant. Mais c'est rendu, comment que c'est rendu possible d'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec les autres? Ça nous dispose à être en paix avec soi-même, à expérimenter justement une paix authentique. Donc, on dit que la paix intérieure, c'est un sentiment de plénitude, de contentement, de tranquillité, d'ordre, de repos, de sécurité. Bien que presque tout le monde aspire à ce genre de paix, elle nous échappe souvent. On aimerait tout ça être zen, là, tout le temps. Tout va bien. Et on comprend que dans le plan de Dieu, bien, ces trois dimensions de paix, bien, sont unies les uns avec les autres. Parce que souvent, c'est sûr, on va souvent rechercher chez les autres vont nous procurer quelque chose. Ah, cette personne-là va me donner de la paix, elle va me donner de la sécurité. Mais on est souvent déçus, parce que ces gens-là sont comme nous. Ils chutent, ils manquent. Mais quand on est en relation avec Dieu, puis on goûte à sa paix, à son pardon, à son amour, c'est là qu'on peut se tourner vers les autres, et puis c'est là qu'on a la paix en nous-mêmes aussi. Souvent, on dépend des autres pour la paix, mais on peut juste avoir une paix intérieure quand on goûte à la paix de Dieu en nous. On goûte à la paix qu'on a avec les autres, ou ce qu'on est invité à être en paix, à vivre en paix avec eux. Donc, tout ça se fait grâce à Jésus-Christ. Et puis, pour nous-mêmes, encore aujourd'hui, frères et sœurs, bien, nous sommes capables de goûter à ce genre de paix à cause de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. Donc, on peut être en paix avec Dieu, en paix avec les autres, on peut être en paix avec soi-même. C'est ça, notre frère aussi, la semaine passée, hein, nous avait parlé souvent que ce qu'on oublie aussi dans les conflits, bien, comme on est souvent tourné vers nous-mêmes, bien, on ne pense pas à Dieu dans ça. Puis il nous avait mentionné, bien, un élément qu'on a besoin de se rappeler quand on vit quelque chose, puis ça ne se fait pas naturellement, c'est de chercher la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas facile. Mais on comprend que le Seigneur Jésus-Christ aussi, pour nous, bien, dans ce qu'il a accompli à la croix, puis on va le voir aussi dans Jean chapitre 17, on voit que sa réputation de Jésus-Christ, en fait, dépend de l'unité. Pensez à ça. La réputation de Jésus-Christ dépend de l'unité. Ça dit ici, l'unité est plus qu'une clé importante pour la paix intérieure, hein, parce que Paul, tantôt, il disait d'être uni. Il a mis cette emphase-là. C'est aussi l'élément essentiel de notre témoignage chrétien. Lorsque la paix et l'unité caractérisent nos relations avec les autres, bien, qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien, elle nous dit que nous démontrons que nous sommes un enfant de Dieu. Et qu'il est présent dans nos vies et qu'il œuvre dans notre vie. Et on pourrait regarder ça dans l'autre sens, l'inverse est tout aussi vrai. Lorsque notre vie est remplie de conflits non résolus, de relations brisées, bien, est-ce que c'est possible qu'on n'aura pas beaucoup de succès dans notre témoignage envers les gens autour de nous? Et on pourrait dire que ce principe est enseigné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. L'une des déclarations les plus fortes concernant la paix et l'unité se trouve dans la prière de Jésus, juste avant qu'il soit arrêté et amené pour être crucifié. Donc, dans Jean chapitre 17, bien, après avoir prié pour lui-même et pour l'unité de ses disciples, Jésus prie pour tous ceux qui un jour allaient croire en lui, et ses paroles s'appliquent directement à chaque chrétien aujourd'hui. Au verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour eux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et c'est intéressant, hein? On comprend que Jésus, cette prière-là, il l'a faite vraiment à quelques heures là, d'être arrêté, d'être mis à mort. On voit ici que, au fur et à mesure là, qu'il était rendu justement à ce temps-là d'être arrêté et mis à mort, bien, le Seigneur a focalisé sur un concept, sur un point qui était de première importance pour tous ceux qui allaient croire en lui. Il n'a pas prié que ses disciples soient toujours joyeux, qu'ils ne souffrent jamais ou que leurs droits soient toujours défendus. Jésus pria que ses disciples puissent être en communion fraternelle les uns avec les autres. Et ce fut si important pour lui qu'il y a sa réputation et la crédibilité de son message à la manifestation de l'unité et de l'entente de ses disciples. Des fois, on oublie ça aussi. Donc, je vous invite à relire cette prière et de réfléchir justement à l'importance de l'unité pour lui. Est-ce que c'est important pour chacun de nous? Et on pourrait dire des paroles similaires se trouvent dans Jean 13, 34 à 35, encore là, des passages qu'on connaît bien, où ce qu'il exprime, il dit à ses disciples que leur témoignage public serait intimement lié à la façon dont ils se traiteraient les uns les autres. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hein, » on a vu ça tantôt dans le Proverbe, où ce qui parlait de l'amour, associé à la paix. Et Paul qui encourageait les Corinthiens à régler cette situation-là de division, de querelle. Donc, comme je disais, pour nous aider à mieux vivre, justement, c'est ça aussi, cet aspect-là de dire dans nos conflits comment qu'on peut glorifier Dieu, bien, c'est de se rappeler aussi que dans nos attitudes et comportements, on reflète la personne de Jésus-Christ. Comment les gens nous voient, comment les gens nous perçoivent. Mais dans ça, je comprends qu'on n'est pas parfait. C'est pas la perfection que le Seigneur y veut. Il veut aujourd'hui déjà nous aider à nous rappeler de ça. Comme on dit, ce n'est pas des choses qu'on ne connaît pas, mais comment progresser dans ça. Paul, dans Thessaloniciens, il dit de marcher de progrès en progrès. Moi, j'aime ça. Il ne nous dit pas d'être parfait, là. Il dit progresser. Donc, ça, quand on progresse, ça se fait plus facilement. Il n'y a pas d'exigence. On n'est pas obligé là, d'être en... Hein, si je suis un athlète, demain, il faut que je cours tout de suite un marathon. Non, pour me rendre là, il va falloir que je progresse. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle encore, dans sa grâce, dans son amour, de progresser dans ça. Puis de réaliser que quand je recherche la paix, je témoigne de la personne de Jésus-Christ. Hein? Je discrédite cette personne-là ou bien je lui donne tout le crédit. Ça fait que ça peut nous encourager et nous aider. Pas comme un poids pesant, mais dire, c'est vrai, Seigneur, tu m'invites à ça parce que, gars, tu as mis ta crédibilité en jeu dans ça, dans la façon dont on allait se comporter, comment on allait régler nos problèmes, comment les gens allaient nous voir. Puis à travers ça, bien, c'est le plus beau témoignage qu'on ne peut pas donner aux personnes. De dire, lui, il est différent, elle est différente. C'est que ça peut nous aider dans notre évangélisation aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, j'aimerais terminer avec ça. les conséquences des conflits, les enjeux de tout ça. On sait que l'impact potentiel de conflits est énorme. Tantôt, on a parlé bien de personnes qui, malheureusement, des croyants même, des relations précieuses qu'ils pouvaient avoir avec des personnes, ça a été brisé, fracassé. Donc, l'impact de conflit, bien, peut nous emmener à ça, à détruire des relations. Ça peut, on comprend aussi que ça peut rendre la vie en général, on prend le travail, la vie familiale, la vie d'église pénible, affecte l'ambiance et entrave la collaboration. Ça l'amène de la démotivation, ça diminue la performance. Ça l'engendre, ça peut engendrer des pertes, ça engendre des pertes de talent et ça peut provoquer de l'absence. Par conséquent, il est vital de désamorcer tout ça le plus vite possible. Tout renvoi de ça risque d'envenimer encore les relations et de rendre leur résolution plus difficile. C'est sûr, je n'ai pas fait de grandes recherches là-dessus, mais on dit que, par exemple, au niveau juste du travail, il semblerait que dans les compagnies ou tout ça, bien, il y a des gens qui sont là pour gérer des conflits. On dit environ ces gens-là vont passer 30 % de leur temps dans une semaine à traiter et à gérer des conflits. 30 % du temps, c'est quand même beaucoup. On dit que 85 % des salariés vivent des conflits au travail. Et on dit que les coûts annuels aux États-Unis seulement, je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer ça, mais c'était calculé à plus de 350 milliards de dollars par année. C'est coûteux? C'est coûteux. Oui, vas-y, Maurice. C'est vrai. Oui. C'est ça, hein? C'est ça, pour peu de personnes, on va mettre beaucoup de notre temps là-dessus, hein? Donc, on n'en met pas pour d'autres choses. Ça l'engendre des pertes, ça l'engendre des difficultés. Tu as bien raison. Oui. Oui. Ben oui. C'est sûr, écoute. C'est astronomique. C'est ça. On n'a pas de misère à s'imaginer des coûts, mais des fois, c'est ça, comme je dis, l'idée ici, c'est pas de faire ressortir tout ça, mais c'est de nous rendre encore plus sensibles à ça. Dire des conflits, là, vraiment, c'est terrible. Puis ça peut être terrible aussi. Des fois, on banalise ça. Des fois, on s'en occupe pas. Ça fait que le but, un peu, tout ça, comme on dit, de vivre en paix. Donc, bien, qu'est-ce que ça fait, bien sûr? Bien, comme j'ai dit, premièrement, on pourrait dire conséquence des conflits en tant que croyant, la réputation du Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier point. Chercher à glorifier Dieu dans ça. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Favorise les attitudes défensives et les refus de coopération. Ça fait quand on est en conflit, bien souvent, on est sur la défensive. On peut être sur la défensive. Et on reste sur la défensive. Et on ne collabore pas. On garde notre point. On a raison. C'est ça, je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Je vais essayer de le trouver, voir. Bon, je ne le trouverai pas quand on cherche quelque chose. C'est sûr, par rapport à ça, un peu, je disais quelque chose, on disait souvent, on se chicane, pourquoi? Parce que on a raison. Notre point est meilleur. On n'écoute pas l'autre. Puis la personne va dire, bien, OK, on se chicane à cause de ça, mais pourquoi qu'on va partir ou pourquoi qu'on ne collaborera plus, bien, c'est parce que l'autre personne n'accepte pas notre point. Hein? Oui. C'est toujours ça. Ça part de ça. Donc, favorise les attitudes défensives et les refus de coopération. Est-ce qu'on peut vivre ça dans notre assemblée? Bien sûr. Hein, on a parlé de performance. Altère la performance. On est moins disposé, on a moins le goût de collaborer, on a moins le goût de participer aux choses. Puis ça peut conduire à l'échec de projets aussi, parce qu'on comprend que souvent des projets, ça prend du monde, ça prend de la participation. Mais s'il n'y en a pas, bien, il n'y en a pas. Autre chose, ça démotive. C'est normal. Ça démotive. C'est difficile à vivre. Donc, est-ce que ça peut augmenter l'absentéisme? Hein? Ça peut conduire à dire, bon, j'irai pas. Comme ce matin, hein, c'est sûr, c'est vrai que déjà, on n'est pas beaucoup, mais ce matin, on n'est pas beaucoup non plus. Hein? Puis, bon, on peut avoir toutes sortes de raisons, puis... Mais c'est ça, est-ce que des fois, je ne suis pas là justement parce que j'ai un conflit non résolu? Puis peut-être j'en suis même pas conscient, peut-être ça fait bien longtemps qu'il s'est passé quelque chose, on a recouvert ça, puis... Mais c'est toujours présent. On n'a pas le goût le dimanche matin quand on se lève, peut-être dire « Oh, j'irai pas, c'est pas grave. » Puis là, on va trouver des raisons, on va banaliser tout ça. Puis, autre point intéressant aussi qu'on oublie, peut contraindre aussi au présentisme. Est-ce que vous savez c'est quoi le présentisme? Ça le dit, c'est d'être présent, physiquement, mais pas de cœur. Donc, ça fait penser un peu à nos réactions, dire qu'est-ce qu'on fait? Bien, mettons, c'est l'échappatoire, le mode échappatoire, je m'en vais. Ou bien là, l'autre, c'est je réagis, tout ça. Mais ça peut faire aussi, bien, je peux être présent finalement, puis, bien, c'est ça, j'en parle pas. Mais je suis là pareil. Mais tout ce que ça l'entraîne, plus de collaboration, manque d'entrain, ne participe pas. Ça fait qu'on se rend compte, frères et sœurs, que des conflits non résolus, tout ça, puis ça prend pas grand-chose des fois, ça peut être juste une petite banalité, parce qu'on est fragile. On est très fragile. Puis tout ça va nous emmener dans un état où ce que soit qu'on est absent, mais on peut être là aussi, mais on n'est pas présent de toute notre être. On n'est pas disposé, on ne veut pas collaborer, on ne participe pas. Ça fait que ça peut être une bonne question à se poser aussi, chacun de nous. Aujourd'hui, est-ce que je vis un conflit? Est-ce que je vis un conflit dans mon assemblée avec quelqu'un? Puis d'aller plus loin, dire « qu'est-ce que ça me fait? Comment je réagis à ce conflit-là? Est-ce que ça m'amène à m'absenter? Est-ce que ça m'amène à… quand j'entends un message, j'entends une annonce, tout ça, ça me rend ici, ça sort par là. Arrangez-vous. Peut-être. » C'est ça que ça l'amène, les conflits, malheureusement. On voit là que c'est vraiment destructif. Puis si on ne s'en occupe pas, bien… Puis c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'en occuper, parce que des fois, on n'a pas le goût. On n'a pas le goût d'aller voir la personne. Puis des fois, bien, tu sais, on peut juste dire quelque chose à quelqu'un, puis notre intention, c'est pas de blesser la personne, mais ça blesse la personne. Mais on le sait pas. Ça fait que, comme je dis des fois à mes patients, si vous me dites pas vos affaires, moi, je devine pas. Mais ça prend du courage, des fois, pour le dire. Puis c'est ça qui est dur des fois, d'avoir le courage, de demander au Seigneur le courage de parler. Pas pour détruire l'autre personne, toujours dans un motif d'unité, de chercher la résolution du problème, d'écouter l'autre, de comprendre l'autre. C'est autant celui qui est blessé celui qui est blessé puis, ou que l'autre qui a blessé l'autre, bien quand on s'écoute et on comprend l'autre, on comprend mieux qu'est-ce qu'il vit. Ça amène de la compassion. Ça amène du pardon. Ça amène de vouloir être avec la personne. Ça vous, parce que nous aussi, on veut être écoutés, on veut être compris quand on vit des choses. Ça fait que c'est très fort, c'est très profond tout ça, les conflits. C'est pas juste de dire, bien, c'est comme dire, bah oui, on sait qu'il faut pardonner. Mais je veux dire, c'est facile à dire, mais pour se rendre là, il faut travailler. On a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin des frères et sœurs pour nous aider à aller dans le pardon véritable. Ça se fait pas comme ça. Ça fait que ce matin, frères et sœurs, bien encore là, c'est ça, on est appelé à vivre en paix. Puis on a considéré justement cette paix-là, merci Seigneur, elle est disponible grâce à Jésus-Christ. On est capable d'être en paix avec Dieu, de vivre en paix les uns les autres, d'avoir cette paix intérieure-là aussi. Puis de travailler, puis de, ça va nous emmener des éléments de réflexion, de prière, pour justement voir où est-ce qu'on est aujourd'hui, chacun de nous dans ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit actuellement qui m'affecterait là, d'une manière quelconque? Puis il y a sûrement d'autres choses qu'on pourrait parler aussi, là. Mais en gros, c'est souvent les choses qui ressortent.
Chaque être humain est différent.
Exact.
Il faut se mettre au niveau de la personne. Il faut être transparent.
Oui.
Il faut être reconnaissant.
C'est vrai.
Puis souvent, ça peut faire la différence.
Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est ça. Puis c'est vrai d'être bienveillant. Hein? Souvent, c'est ça, là, ce qui peut éviter ça, c'est ça. Des fois, on manque de bienveillance. Hein? On prend souvent pour acquis des choses. Hein? Il se passe telle affaire ou bien quelqu'un fait quelque chose. T'sais? Puis moi, je suis comme ça aussi. Souvent, quand toutes les choses vont bien, on ne dit rien. Mais là, il arrive un petit problème, là, on en parle. Hein, on souligne la problématique. Puis, on est tous comme ça. Puis, c'est vrai que la bienveillance, d'apprécier, de dire, gars, si on a quelque chose, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Il y a des gens qui ont travaillé à ça. Ça fait que, encore là, ça nous montre, ça nous ramène encore à dire, Seigneur, c'est ça, montre-moi mon cœur. Hein? On est souvent des consommateurs. On consomme. On est habitué de recevoir. Mais juste donner, c'est pas facile. Encore là, ça prend l'œuvre de Dieu dans nous. Ça fait que tout ça, la paix, l'amour, la bienveillance, je veux dire, c'est un travail que Dieu veut faire dans nos cœurs. Donc, il nous invite aujourd'hui à marcher dans ça de progrès en progrès. Puis, c'est ça, la reconnaissance, apprécier, dire merci. Des fois, ça fait des grosses différences. Puis, on a besoin. Oui. Oui. C'est certain, c'est sûr. Ça, c'est certain. Le choc des générations. Mais en même temps, moi, j'ai réalisé que, oui, il y a des choses à considérer, puis c'est important, mais en même temps, cette personne-là, même si elle est plus jeune, puis moi, je suis plus vieux, elle a le même cœur que moi. Ça fait que ça aide. Quand on comprend le cœur, qu'est-ce qui se passe, on peut aller, quand on va dans le cœur, on est gagnant. Si on va dans le choc des générations, on va se perdre. Parce que là, moi, j'ai été appris à faire ça d'une façon, puis lui a fait ça d'une autre façon, par exemple. C'est que là, bien, je peux imposer ma façon, ou bien moi, je ne le comprendrai pas. Moi, j'ai fait ça, toi, tu es capable. C'est que là, on tombe dans la performance, on tombe dans... C'est que, mais quand on va dans le cœur, on comprend que cette personne-là, elle veut la même chose que moi, ou elle peut vivre les mêmes choses, même si elle est plus jeune, c'est là que je pense que le contact peut mieux se faire, puis on peut mieux se comprendre. C'est pour ça que je dis, bien, il faut aller au-delà, il faut aller profondément dans ce qu'on voit aujourd'hui, puis ce qu'on va voir dans les autres semaines aussi, c'est ça. L'important, c'est on va essayer d'aller chercher là, ce qui se passe aussi, là, comprendre ce qui se passe à l'interne pour mieux vivre ce que le Seigneur nous amène à travers sa parole. Fait que frères et sœurs, merci, prions. Seigneur, merci pour ce temps ce matin, merci pour mes frères et sœurs. Merci encore de nous inviter, Seigneur, à la paix. Et on te dit merci, Seigneur, on est reconnaissant parce qu'on avait besoin de paix avec toi. On était perdus, on était privés de ta gloire, on était morts dans nos offenses, dans nos péchés. Tu es venu à notre rescousse, tu es le grand libérateur, le grand rédempteur. Tu nous as réconciliés. Tu as fait de nous de tes enfants. Nous t'appartenons. Et Seigneur, ensemble, bien, nous t'appartenons. Nous vivons ensemble aussi. Tu es notre roi, notre Seigneur. On se courbe devant toi. Et Seigneur, aujourd'hui encore, bien, tu nous invites à la paix. La paix avec toi, oui, si nous ne l'avons pas, bien, Seigneur, je t'invite à toucher le cœur des personnes qui peuvent avoir cette paix avec toi grâce à Jésus-Christ par son œuvre à la croix. Et pour nous qui croyons en toi, Seigneur, bien, tu nous invites aussi à la paix ensemble avec les frères et sœurs. Et Seigneur, bien, tu nous dis que oui, c'est mieux d'avoir un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alors, Seigneur, encore, bien, merci de qui tu es, de ce que tu as accompli, et Seigneur, ce que tu veux faire dans chacune de nos vies. Viens nous aider, Seigneur, à réfléchir aussi sur ce qu'on peut vivre au sein de notre assemblée, les uns envers les autres, Seigneur, et aussi avec les gens qui nous entourent, Seigneur, que ce soit nos proches, que ce soit des gens au travail. Tu nous invites à la paix dans la mesure du possible, Seigneur. Ça fait qu'encore là, bien, Seigneur, on veut considérer que vivre dans la paix, bien, ça t'honore, Seigneur Dieu. Ton Fils Jésus met l'emphase sur cette unité, les uns qu'on peut avoir avec les autres, cet amour qu'on se manifeste les uns vers les autres aussi, Seigneur, qui démontre que nous t'appartenons. Alors, on veut vivre ça, Seigneur, de mieux en mieux. Merci de prendre soin de nous dans ça. Dirige mes frères et sœurs, Seigneur, dans leur eux aussi, dans ce qu'ils peuvent vivre. Seigneur, merci qu'on peut s'aider les uns les autres, on peut prier les uns les autres, Seigneur, pour ça. Alors, je te rends grâce, je te bénis. C'est dans le beau nom de Jésus que je te prie. Amen. Ça, frères et sœurs, bien, on vous le dit toujours, si vous aimeriez qu'on prie pour vous, vous auriez quelque chose, gênez-vous pas. On vous invite, là, à venir nous voir. Bonne fin de journée.